Depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, l'accueil diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Malaisie forment un forum parlementaire pour l'indépendance palestinienne. L'Indonésie et la Nouvelle-Zélande collaborent pour prévenir la contrefaçon des documents de quarantaine. L'Indonésie soutient la réforme du Conseil de l'Organisation Maritime Internationale, ou OMI, pour protéger les marins indonésiens. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le Parlement indonésien et la Malaisie, caucus parlementaire malais pour la Palestine, ont lancé et convenu de la formation du Forum parlementaire d'Asie du Sud-Est pour l'indépendance palestinienne au bureau du Parlement malaisien à Kuala Lumpur. Les deux parlements ont convenu de l'importance des efforts collectifs des parlements régionaux pour soutenir l'indépendance palestinienne et mettre fin à la colonisation du peuple palestinien par Israël, invitant ainsi tous les autres parlementaires d'Asie du Sud-Est à participer. Le président de l'Agence de coopération interparlementaire de la République d'Indonésie, Fadlizon, dans une déclaration reçue vendredi à Jakarta, espère que ce forum deviendra une plateforme pour la lutte pour l'indépendance palestinienne du côté parlementaire, notamment en Asie du Sud-Est. Pendant ce temps, le membre du Parlement indonésien, Jazuli Juwaini, espère que tous les parlements de la région de l'Asie du Sud-Est rejoindront le forum. L'agence indonésienne de quarantaine ou barantine renforce sa coopération avec la Nouvelle-Zélande, dont une consiste à échanger des certificats de quarantaine électronique. Le chef de barantine, Sahat M. Pangabian, a exprimé dans un communiqué vendredi à Jakarta que l'échange de certificats électroniques vise à empêcher la falsification des documents lors du processus de quarantaine et a un impact direct sur la réduction du temps d'attente des navires ou du temps de séjour. L'Indonésie est le premier pays de l'ASEAN à échanger des certificats électroniques de quarantaine avec la Nouvelle-Zélande. À l'avenir, cet effort facilitera la circulation des marchandises entrant et sortant de l'Indonésie et de la Nouvelle-Zélande. En outre, l'Agence indonésienne de quarantaine a également collaboré des activités sanitaires et coopération phytosanitaire. Pangabian a ajouté que les secteurs de la coopération convenus entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande comprennent actuellement les domaines de l'échange de certificats électroniques, de l'accélération de la main levée des marchandises à la frontière, de la coopération pour atténuation des risques, des systèmes de traitement et de certification en quarantaine, des systèmes de surveillance, des enquêtes sur les épidémies et du renforcement des capacités des ressources humaines et des laboratoires. L'Indonésie, par l'intermédiaire de la Direction générale des transports maritimes du ministère des Transports, soutient la réforme du Conseil de l'Organisation maritime internationale, ou OMI, pour protéger les gens de mer en Indonésie et le rôle du transport maritime dans l'économie mondiale. Le directeur général des transports maritimes du ministère des Transports, Anthony Arief Priadi, dans un communiqué à Jakarta, a déclaré vendredi que l'Indonésie, en tant que pays situé sur la principale route maritime internationale, devait prêter attention et protéger les intérêts des marins indonésiens et le rôle du transport maritime dans l'économie mondiale. Anthony, qui a présidé la délégation indonésienne, a déclaré que la délégation de la République d'Indonésie avait eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, à Londres, en Angleterre. Il a déclaré que la réunion avec le secrétaire général de l'OMI avait eu lieu pour remettre l'instrument d'adhésion à l'amendement à la Convention de l'OMI 2021 qui avait été ratifié par l'Indonésie par le biais du décret présidentiel numéro 25 l'année 2024 concernant la ratification des amendements à la Convention de l'Organisation maritime internationale 2021. Selon Anthony, la remise de cet instrument d'adhésion confirme l'engagement de l'Indonésie en faveur de la réforme du Conseil, à savoir la création d'un Conseil de l'OMI plus transparent, représenté et responsable. Les 10e et 12e vice-présidents de la République d'Indonésie, Youssouf Kalla, ont tenu une réunion avec le chef suprême du Hamas, Ismail Haniyeh, vendredi après-midi à Doha, au Qatar, pour discuter de la situation actuelle en Palestine. Cité dans une déclaration écrite de l'équipe de presse de Youssouf Kalla reçue à Jakarta, il a été indiqué que lors de la réunion, qui a duré environ 12 heures, ils ont discuté sérieusement comment il faut mettre fin immédiatement à la guerre et à la violation dans la bande de Gaza pour le bien de l'humanité. Youssouf Kalla, qui est également président général du Conseil des mosquées indonésiennes et de la Croix-Rouge indonésienne, a exprimé son espoir à Ismail Haniyeh de se réconcilier immédiatement avec le groupe de Fatah afin qu'il s'unisse. Un certain nombre de personnalités ont accompagné Youssouf Kalla lors de la réunion, entre autres l'ambassadeur d'Indonésie au Qatar, Ridwan Hassan, et l'ancien ministre du Droit et des Droits de l'Homme, Hamid Awaluddin. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative organise le Forum de coordination de l'industrie touristique 2024 dans le but de renforcer la synergie entre l'industrie du tourisme et l'économie créative, afin d'encourager la compétitivité de l'industrie du tourisme et de l'économie créative inclusive et durable. Il s'agit d'un forum important, d'autant plus que l'Indonésie est en train de passer à un nouveau gouvernement. La vice-ministre du tourisme et de l'économie créative, Angela Tanusudibyo, à Jakarta vendredi, espère que les acteurs du tourisme seront plus unis. Selon lui, le tourisme est un secteur qui soutient l'égalité économique en Indonésie parce que les entreprises touristiques peuvent être exercées presque partout en Indonésie. Angela a souligné qu'à l'avenir, les défis du tourisme et de l'économie créative en Indonésie seront également plus grands. Les pays de l'ASEAN ont une croissance assez élevée. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique « Les nouvelles de l'Indonésie ». Les premières nouvelles sont venues de Denpasar, Bali. 26 artistes composés d'artistes balinais et taïwanais ont collaboré pour interpréter des compositions de percussion à partir d'instruments de musique traditionnelle balinais gamelan et taïwanais Biguan au Festival des Arts de Bali 2024. Le président du studio d'art Dharma Santi Ubud, Imade Sucipta Adenpasar, a déclaré mardi qu'en 10 jours, ses 14 étudiants se sont formés avec 12 étudiants en art de l'Université nationale des arts de Taipei, Taïwan. Même si cela a été court, selon lui, tous les musiciens ont beaucoup appris, y compris tous les instruments aussi bien les instruments de musique traditionnels balinais que taïwanais ont été étudiés ensemble et dans certaines chansons, ils ont échangé leurs positions. La collaboration entre le studio d'art Dharma Santi Ubud et l'Université nationale des arts de Taïwan est une série du Festival des arts de Bali 2024, à savoir célébration de la culture mondiale à Bali, réunissant des artistes gagnants et des artistes du programme d'études de l'Université nationale des arts de Taipei ensemble, qui étudient la théorie et la pratique du gamelan balinais. Toujours de Denpasar Bali, le gouvernement de la ville de Denpasar Bali construira 300 points pilotes pour un système de gestion des déchets organiques basé sur la source appelée TEBA moderne. Le maire de Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara à Denpasar, a déclaré mardi que les 100 pilotes de TEBA moderne étaient l'aide de la communauté Maludong, tandis que les 200 TEBA modernes seront financés par APBD de la ville de Denpasar. TEBA modernes devraient être construits en priorité dans des zones proches de lieux saints tels que Pemerajan Dadia, qui possède un terrain assez vaste. Selon le maire de Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, le nombre croissant d'options offertes à la communauté dans la gestion des déchets à la source fournira une bonne éducation. Pendant ce temps, Komang Sudiarta, en tant que fondateur de la communauté Maludong, a déclaré que le programme de gestion des déchets organiques TEBA moderne était socialisé à tous les éléments de la société, tels que les Banjar, les temples ou les Merajan appartenant à la communauté et aux écoles. Plus tard, les déchets organiques seront décomposés organiquement par des micro-organismes dans un délai de 6 jusqu'à 10 mois et pourront être utilisés comme produits supplémentaires tels que des engrais, etc. Le projet de construction de 100 points TEBA modernes dans la ville de Denpasar sera inauguré par étapes. Pour commencer, le programme sera inauguré du 9 au 11 août 2024 à Banjar Tampak, Gangsul. La dernière nouvelle vient de Bantul, Yogyakarta. Le gouvernement de la région de Bantul, région spéciale de Yogyakarta, construit un site de traitement intégré des déchets, ou TPST, de grande capacité sur trois sites qui pourraient devenir une solution permanente pour surmonter le problème des déchets. Le région de Bantul, Abdul Halim Musli, à Bantul, a déclaré mardi que les trois sites de traitement intégré des déchets ou TPST d'une capacité ayant jusqu'à des dizaines de tonnes par jour sont le TPST de Dingkikan, le village Argodadi, le TPST de Modalan Banguntapan et une installation intégrée de traitement des déchets à Bauran, le district de Pleret. Selon lui, le problème de déchets à Bantul sera résolu après la construction de plusieurs TPST de grande capacité. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire du jeudi. Je commence avec les événements du 13 juillet 1930 où la première Coupe du Monde de la FIFA, le championnat du monde des équipes nationales masculines de football, a eu lieu pour la première fois en Uruguay du 13 au 30 juillet 1930. À cette époque, la FIFA avait choisi l'Uruguay comme hôte. La nomination de l'Uruguay comme hôte a été motivée par le succès de l'Uruguay dans la défense de son titre de football aux Jeux olympiques d'été en 1928. Tous les matchs ont été joués au stade Centenario de la capitale uruguayenne, Montevideo. Le stade a été construit spécialement pour la Coupe du Monde. 13 équipes, soit 7 d'Amérique du Sud, 4 d'Europe et 2 d'Amérique du Nord, ont participé à cette première fête du ball. Lors du match final, l'Uruguay a battu l'Argentine 4-2 devant 93 000 personnes. En plus d'être le premier pays à accueillir la Coupe du Monde, l'Uruguay a également remporté la Coupe du Monde pour la première fois. Le 13 juillet 1949, Révolution nationale indonésienne. La Révolution nationale indonésienne a eu lieu le 13 juillet 1949. Cet événement a été marqué lorsque le cabinet Hatta a ratifié l'accord Roemrooyen. Pendant ce temps, Syafruddin Prawira Negara, qui était alors président du gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie, ou PDRI, a officiellement mis fin à l'existence du PDRI et a rendu son mandat à Sukarno. Le 13 juillet 2024 est célébrée la Journée internationale de la pierre. Les pierres sont souvent considérées comme des objets inutiles, mais en réalité, le rôle des pierres dans la vie est très important. La couche solide externe de la Terre, appelée phytosphère, est constituée de roches et a été utilisée par les humains tout au long de l'histoire. Les pierres jouent également un rôle dans l'évolution humaine. L'objectif spécial de la Journée internationale de la pierre est de sensibiliser le monde entier à l'importance des pierres et d'encourager les gens du monde entier à en apprendre davantage sur les pierres. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Hati, yeah. Oh Tuhan, biar berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih. Mohon Tuhan beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi. Dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih. Mohon beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi. Oh Tuhan, dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter One My Policy, où la politique sur une seule carte encourage l'investissement et l'équité économique. Le ministre coordinateur des affaires économiques de la République d'Indonésie, Erlangga Hartarto, a révélé les réalisations significatives de la politique sur une seule carte, ou OMP, qui a été mise en œuvre depuis 8 ans. Cela a été transmis lors du sommet de One My Policy à Jakarta jeudi 11 juillet. La politique sur une seule carte ou OMP comprend 4 étapes d'activité principales, à savoir les activités de compilation, d'intégration, de synchronisation et les activités de partage de données et d'informations géospatiales. Depuis sa mise en œuvre par le règlement présidentiel numéro 9 de 2016, est mise à jour pour devenir le règlement présidentiel numéro 23 de 2021, la politique sur une seule carte ou OMP a réussi à réduire les écarts d'utilisation de l'espace de 77,38 millions d'hectares en 2019 à 57,41 millions d'hectares en 2024. Erlangga Hartarto a déclaré que cette réalisation montre l'engagement du gouvernement à créer une sécurité juridique, encourager le climat d'investissement et réaliser l'égalité. Erlangga a déclaré que le sommet OMP 2024 fonctionne non seulement comme un lieu pour rendre compte des progrès de la politique One Map, mais aussi comme un forum pour discuter des recommandations et des stratégies pour la durabilité de la politique après 2024. Le ministre coordinateur Erlangga a souligné l'importance du géoportail politique One Map dans le partage de données et d'informations géospatiales qui a été utilisé par le ministère ou institutions et les gouvernements régionaux pour améliorer la planification spatiale, accélérer la confirmation des limites administratives et résoudre les problèmes de chevauchement des terres. Erlangga, qui a présidé la réunion de travail national qui a eu lieu le premier jour du sommet, a souligné les stratégies pour atteindre les objectifs de la politique One Map ou la politique sur une seule carte et les orientations politiques pour la mise en œuvre de la politique One Map après 2024. Pendant ce temps, le chef de l'agence d'information géospatiale, Mohamed Aris Marfaï, concernant la politique sur une seule carte, a souligné l'importance de fournir un accès aux données et à l'information, d'augmenter la capacité des ressources humaines géospatiales et intégrer la politique sur une seule carte avec une donnée indonésienne dans les réglementations statutaires. On espère que le sommet OMP 2024 constituera non seulement un élan de réflexion sur les réalisations obtenues, mais aussi un point de départ pour poursuivre les efforts visant à atteindre les objectifs stratégiques du développement national vers un avenir meilleur. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, le ministre des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, Agus Sudono, le ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, le chef de cabinet présidentiel, M. Muldoko, et vice-président de la Commission éradication de la corruption, Nurul Gufron, présente des rapports au sommet de la politique sur une seule carte 2024. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Jadi semalam aku tak mampu untuk lupakan kamu, membuat diri ini duadu di mabuk kepayang.
Cantik, kau cantik tiada dua, menarik membuatku terhipnotis. Kamu membuat raga ini duadu dulu hati ini.
Kau memang semua tuh tertuju padamu seorang. Kau begitu lucu, tersipu, malu,
karena takut padamu.
La 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 la, aku jatuh cinta. La 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 la, padamu. La 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 la, yang aku ingin kamu jadi pacarku.
Malam pun datang menghampiriku, berangan-angan kamu tempat duduk sampingku, pegang erat dan tak akan ku melepasmu. Hanya ada dalam hatiku.
Pandangan kamu dengan diriku, lugu, lucu, lulu, kepada
kau begitu lucu.
Cinta,
ulalalalala,
padamu,
ulalalalala.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la plage de Bama à Banyuwangi. La plage de Bama à Banyuwangi est de plus en plus populaire grâce à la présence de la route APH Trans-Java qui accélère l'accès des véhicules à la partie orientale de Java. L'aéroport international de Banyuwangi, qui a été conçu par l'architecte Andra Martin et a remporté l'un des prestigieux prix d'architecture, le prix Aga Khan d'architecture 2022, fait de plus en plus référence à Banyuwangi, situé dans la province de Java orientale. Banyuwangi n'est pas seulement un port reliant l'île de Java à Bali, mais offre également un accès à diverses destinations touristiques, des montagnes aux océans et des forêts à la savane. En plus d'être connu pour ses eaux claires et son sable blanc, la plage de Bama est également l'habitat d'un troupeau de singes à Lonke. Cette place est également équipée de plusieurs installations d'accompagnement touristique, comme des hébergements offrant une vue magnifique sur la plage de Bama. En se moment vers la place, les visiteurs peuvent profiter de la beauté du parc national de Baluran, vert pendant la saison des pluies et sec pendant la saison sèche. Une autre particularité de la plage de Bama est son emplacement entouré de mangroves. En plus d'offrir de superbes couchers de soleil, cette place offre également de belles vues sous-marines. En plus d'avoir du sable blanc et de l'eau de mer claire, cette place est également entourée de forêts de mangroves qui donnent une impression naturelle et ajoute à la beauté du panorama de la plage. Parce qu'elle se trouve dans la zone du parc national de Baluran, les visiteurs n'ont pas besoin de payer un billet d'entrée supplémentaire pour accéder à la plage. Sur la plage de Bama, les visiteurs peuvent profiter de diverses activités telles que nager, bronzer au soleil ou simplement se promener le long de la magnifique plage. En raison de sa durabilité naturelle, la biote marine des eaux autour de la place est également riche et diversifiée. C'est pourquoi les visiteurs doivent également pratiquer des activités de plongée en apnée. Si vous rapport n'est pas d'équipement, ne vous inquiétez pas, parce que les visiteurs peuvent louer du matériel de plongée en apnée sur la plage. Sur la plage, il y a aussi des bateaux à passagers qui peuvent être embarqués pour profiter de la vue, comme regarder le mont Baluran de loin. De retour de la plage, les visiteurs peuvent s'asseoir dans le belvédère, regarder la mer bleue sous le ciel de soir, déguster des collations telles que des bananes frites, tout en regardant le coucher du soleil. Chaque nuit, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Takkan aku
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons présenter innovation en matière de collation saine antidiabétique. Les étudiants du programme d'études en commerce des services alimentaires et du programme d'études en technologie alimentaire de l'Université Ahmad Dahlan ont réussi à créer de nouvelles innovations. Cette innovation s'appelle Sorghum Bar. Les barres de sorgho sont fabriquées à partir de sorgho ou mieux connu sous le nom de céréales comme solution pour contrôler la glycémie et une alimentation équilibrée. Cette innovation a certainement un objet extraordinaire étant donné le nombre limité de choix alimentaires sains et nutritionnels dans les aliments conventionnels. Sorghum Bar a été créé pour sensibiliser à la santé et à une alimentation équilibrée dans les aliments afin de contrôler la glycémie. En outre, cet aliment peut être une alternative face au pourcentage de diabétiques qui continue d'augmenter chaque année. Lors de la fabrication de cette barre de collation anti-diabétique saine, elle a été testée en détail afin qu'elle soit adaptée à la circulation et puisse être consommée. Astrid et l'équipe ont réalisé des tests rapprochés et hédoniques pour que les snacks qu'ils confectionnent soient propres à la consommation et 100% halal. La composition du snack bar au sorgho est composée de farine de sorgho, la farine d'amidon, d'arrowroot, de farine de taro, de margarine et de sucre de coco. Il existe trois variantes de saveur, à savoir original, granuleuse et fruitée. Cette barre snack au sorgho a été commercialisée dans toute l'Indonésie via les réseaux sociaux. Bien sûr, le prix du snack bar est très abordable, 8000 rupies. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
From the first time. myself when you're not around. Just tell me where, girl, I go right now. We don't need to be wasting time. Get early away while we do tonight.
Dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Pana Asmara, chantée par Faiz Maulana Hasbi. Cette chanson a été popularisée et créée pour la première fois en 2004 par le légendaire chanteur Krisha dans son album intitulé Senyawa. Pour commémorer le créateur, en 2010, la chanson a été arrangée et chantée à nouveau par Afghan à travers le deuxième album studio d'Afghan intitulé Diwan. Cette chanson raconte des sentiments d'amour d'une personne pour la personne qu'elle aime. Il se sentait tenté par le regard et la proximité de la personne. Cependant, la personne qu'il aime se contente de rester silencieuse et souriante sans exprimer clairement ses sentiments, ce qui la rend confuse et anxieuse. Bon, chers auditeurs, voici Faiz Maulana Hasbi dont le titre est Pana Asmara. Bonne écoute!
Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara.
Voice of Indonesia.
So alone, the rain starts to fall. Then I wrote a song. The day's getting older, but I still have hope about a life that asks for more. It's hard for sure, I give my best at all. I don't wanna jump too far, so I keep flying up and high, keeping my dreams up in the sky. Nobody's getting me to the ground, but if I do, then I gotta stand up, up to the sky, up, up to the sky. As long as I have hope about a life that asks for more, it's hard for sure, I give my best in all. Oh, oh, life is like a war. One thing that I know, I don't wanna jump and fall over and over again. So I keep flying up and high, dreams up in the sky. Nobody's getting me to the ground, but if I do, then I'm gonna stand up, up to the sky, up, up to the sky. I
my hope, stand by. Wanna ride you back home to the sky. Shame I won't stop me inside. Can't stop me, I'm gonna fly.
So I keep flying up and high, keeping my dreams up in the sky. Even when I go to the ground, I'm gonna keep standing up.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.